Studio Tamani, voici les informations en français.
Il est 18h, bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal au sommaire. Les pays membres de l'Alliance des États du Sahel tiennent leur premier sommet ce samedi à Niamey au Niger. Des observateurs pensent que des questions liées à la sécurité et à l'économie pourraient être au centre des échanges. Lutte contre l'esclavage et la traite des personnes, un symposium de 3 jours réuni depuis hier les acteurs afin de mettre un terme à la pratique. Les radios et les télévisions du Mali n'ont plus le droit de diffuser de publicité non autorisée des médicaments traditionnels sur les antennes. Cette décision de la Haute Autorité de la Communication est diversement appréciée à l'intérieur du pays. Les détails à suivre dans un instant. À la présentation, Adama Amadou Haïdara Gagné Kanté assure la mise en onde. Comme annoncé dans les titres, le premier sommet des chefs d'État de l'Alliance du Sahel se tient ce samedi à Niamey au Niger. L'information a été annoncée depuis ce jeudi dans un communiqué par les autorités nigériennes. Les délégations des chefs d'État du Mali et du Burkina sont attendues ce vendredi soir dans la capitale nigérienne. Pas de précision sur les objectifs de cette rencontre, mais pour des observateurs, la sécurité, l'économie et le renforcement de la Confédération pourraient être au menu de ce sommet. Plus de détails avec Ousmane Alibouli.
Dans le communiqué de la présidence du Niger, le président du Niger, général Abdourahmane Tchiani, invite les populations de Niamey et environ à réserver un accueil chaleureux aux chefs d'État et leurs délégations. Aucun autre détail n'est donné sur cette rencontre historique par les autorités nigériennes. Des observateurs pensent tout de même qu'elle sera consacrée aux questions sécuritaires, économiques et juridiques. Les 3 chefs d'État pourraient aussi aborder l'opérationnalisation de la force conjointe de l'AES. L'Alliance des États du Sahel réunissant le Mali, le Niger et le Burkina a été créée en septembre 2023 pour faire face aux défis sécuritaires dans la région. Elle a vu ses ambitions grandir au fil des mois. Les 3 pays ont décidé de mutualiser leurs efforts dans plusieurs domaines, notamment économiques, monétaires, infrastructures, politiques, entre autres. Dans un communiqué conjoint en janvier dernier, ces 3 États du Sahel ont annoncé qu'ils quittaient la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, lui reprochant des liens avec Paris. Il faut noter que la CEDEAO tient aussi un sommet dimanche 7 juillet à Abuja au Nigeria, c'est-à-dire le lendemain du sommet de l'AES.
Ce premier sommet de l'AES est une opportunité pour les 3 chefs d'État de mettre en place leur futur projet, analyse Brahima Mamadou Kone, enseignant en sciences politiques à l'Université de Bamako. Il ajoute que les stratégies qui seront élaborées par les dirigeants de l'AES permettront à l'Alliance de renforcer sa force conjointe dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Il est joint au téléphone par Ousmane Alibouli.
Vous savez, l'AES est un projet en construction. Il faut donner un contenu à l'AES au plan militaire, au plan sécuritaire. Je pense que les enjeux de ce sommet vont s'articuler autour des questions sécuritaires, notamment en termes de coopération militaire entre nos 3 États. Et comment est-ce qu'il faut fusionner les forces en présence pour lutter contre le terrorisme? Je pense que c'est des questions qui vont être au cœur du sommet. Et puis, essayer de voir quel contenu juridique, quel contenu économique, quel contenu financier donner à l'AES. Et à la longue, il faudra mettre en place une commission de l'AES comme on le voit au niveau des autres ensembles régionaux. Aussi, il faut développer des stratégies de mobilisation des ressources internes. Parce qu'on parle aujourd'hui de souveraineté. Et quand on parle de souveraineté, il faut que nous soyons en mesure nous-mêmes de financer nos propres projets.
Réagissez à ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte X. 3 morts et 1 blessé, c'est le bilan de l'explosion d'un reste d'engin explosif de guerre dans la localité d'Edang, commune d'Anchawadi, cercle de Gao. Selon des sources locales, les victimes sont des jeunes garçons âgés de 6 à 11 ans. Les mêmes sources expliquent que l'incident est survenu suite à une mauvaise manipulation de l'engin par les victimes. Un symposium de lutte contre l'esclavage et la traite des personnes s'est ouvert hier jeudi à Bamako. C'est une initiative de l'Organisation internationale du travail OIT en collaboration avec le ministère de la Justice du Mali. Cet atelier de 3 jours vise à situer les rôles et responsabilités des magistrats pour une lutte efficace contre le phénomène. L'événement réunit les magistrats du Mali, du Niger et de la Mauritanie. Lale Tangara.
Le ministre de la Justice, Mahamadou Kassogué, affirme que ce symposium va être une occasion de partage d'expériences entre les magistrats du Mali, du Niger et de la Mauritanie pour mettre un terme à l'esclavage.
Les magistrats sont au début et à la fin du processus en matière de lutte contre la traite. C'est eux qui reçoivent les plaintes, c'est eux qui font les jugements, c'est eux qui font aussi les investigations. Donc c'est pourquoi leur place est centrale dans le cadre de cette lutte-là.
Pour Mme Dey Koumba Diop, directrice pays de l'Organisation internationale du travail, OIT, des résultats satisfaisants ont été atteints au Mali. Elle précise que 928 victimes, dont 426 femmes, ont été libérées de la servitude.
Nous avons réussi à travers le projet à faire sortir une certaine quantité de personnes de l'esclavage. Nous les avons appuyées à avoir accès à des opportunités socio-économiques. Nous avons travaillé aussi avec les gens de la presse pour sensibiliser sur ce phénomène parce que c'est l'affaire de tout le monde.
À la fin des travaux, des pistes de solutions seront proposées pour une lutte efficace contre l'esclavage par ascendance dans les trois pays participants.
La campagne des chirurgies gratuites de la cataracte a été lancée ce jeudi à Bamako. Elle est organisée par le Programme national de la santé oculaire et prendra fin en octobre 2024. Au programme, la consultation de 6000 personnes et l'opération de 2000 patients atteints de cataracte. La campagne va couvrir 10 localités du pays. Il s'agit de Bamako, Koutiala, Kita, Fana, Djouila, Welesebougou, Djéné, Nyono, San et Nyoro. Le tirage au sort des éliminatoires de la CAN Maroc 2025 a eu lieu hier à Johannesburg, en Afrique du Sud. Le Mali loge dans le groupe I en compagnie de la Mozambique, la Guinée-Bissau et l'Eswatini. Des consultants sportifs estiment que les aigles du Mali partent largement favoris malgré des incompréhensions qui existent entre la Fédération malienne de football et les joueurs de l'équipe senior. Moussa Bouli, journaliste consultant sportif, est joint ici par Oumar Ouigalo.
Quand nous prenons nos adversaires, le Mali est mieux classé que tous ces pays. Le Mali a été éliminé en quart de finale lors de la dernière CAN au niveau des joueurs aussi présents dans les grandes compétitions. Donc, mathématiquement, le Mali est favori sur le papier. La réalité de toute confrontation, c'est sur le terrain. Donc, il ne faut pas aller avec des préjugés pour affronter, dire que bon, on est grand, tout le monde dit qu'on est favori, on est favori. On est favori, il faut le prouver sur le gazon. Ça va dépendre de l'effectif sur lequel on peut compter pour ces éliminatoires. Alors qu'il y a une fronde au sein de l'équipe nationale, on a pas d'entraîneur, on n'a qu'un entraîneur intérimaire. Les teneurs sont remontés contre la fédération et l'État. Donc ça va dépendre de quel effectif Alou Badra Conti pourra compter pour démarrer ses éliminatoires.
Studio Tamani, projet de la Fondation Hirondelle au Mali, en partenariat avec l'Union des radios et télévisions libres du Mali, URTEL, financé par l'Union européenne, le gouvernement du Danemark, de la Suisse, du Royaume-Uni et par la coopération espagnole.
On l'avait annoncé plus haut, la Haute Autorité de la Communication HAC invite les radios et les télévisions du Mali à ne plus diffuser de publicité non autorisée des médicaments traditionnels sur les antennes. C'était lors d'une rencontre tenue ce jeudi avec les fêtières de la presse, de la santé et des tradithérapeutes. L'objectif est de contrer les publicités mensongères et nuisibles sur la santé des populations. Des habitants de Bafoulabé, Tuminia, Massina et Kadjolo réagissent sur la question dans la rubrique « On en parle ».
Pour moi, c'est une bonne décision. Quand les malades entendent ces publicités, ils achètent alors que ce n'est même pas des bons médicaments.
Dire d'arrêter ces publicités, ce n'est pas une bonne idée, car les médicaments traditionnels sont des compléments pour certains.
Un traitement se fait en secret, mais s'il faut aller faire des publicités à la radio ou à la télé, ce n'est pas la peine.
Un bon médicament n'a pas besoin de publicité. Quand j'entends ça, j'éteins mon poste radio.
Cette décision là rentre dans le cadre de la protection de la population. C'est un secteur dans lequel certains évoluent même au hasard.
Les autorités doivent cadrer le domaine afin d'autoriser certains de l'exercer.
Les tradithérapeutes gagnent, les promoteurs de la radio aussi. S'il faut qu'ils arrêtent, comment ils vont faire pour payer leurs taxes?
À présent, le résumé de l'actualité de la semaine avec Khalifa Guita.
Nous commençons cette rétrospective par la session spéciale de la Cour d'assises sur les crimes économiques et financiers qui s'est ouverte le lundi dernier à la Cour d'appel de Bamako. Une cinquantaine d'affaires seront jugées au cours de cette session. La session va durer 2 mois. Autre sujet, c'est la mise en place d'une commission de rédaction de l'avant-projet de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale par le président de la transition, colonel Assimi Goïta. Ce document sera constitué de toutes les initiatives, actions et activités concrètes concourant à la sécurité, à la paix, à la réconciliation et au vivre ensemble. La commission se compose d'une cinquantaine de personnalités. Par ailleurs, l'hivernage peine à s'installer dans certaines localités du Mali. Dans ces zones de production, la situation inquiète déjà des agriculteurs. Ils affirment qu'une mauvaise pluviométrie pourrait compromettre la production agricole. Terminons par la célébration le 3 juillet dernier de la Journée internationale sans sac plastique. Elle intervient au Mali dans un contexte où l'utilisation des sachets plastiques reste visible dans nos marchés.
18h passées des 10 minutes dans ce studio, ainsi prend fin ce journal, mais restez toujours connectés. Juste après, vous pourrez suivre votre émission culture, le club de Tamani qui parle aujourd'hui de la danse en Tankar, une présentation de Lala Diarra Touré et Aïssata Diarra.
À vous parents, papa et maman, ces messages vous est adressé.
Vous devez avoir les réflexes de déclarer votre enfant dès sa naissance. Votre enfant doit avoir un acte de naissance.
Déclarer un enfant à la naissance est un acte de grande importance et un geste de bon citoyen.
Déclarer un enfant à la naissance est le premier des droits de cet enfant, puisque c'est ce droit qui ouvre l'accès à tous les autres.
Sans acte de naissance, votre enfant n'existe pas devant la loi.
La délivrance d'un acte de naissance est gratuite à la mairie.
Si les parents ne déclarent pas l'enfant à la naissance, il ne pourra pas aller à l'école plus tard.
Si les parents ne déclarent pas l'enfant à la naissance, il ne pourra pas bénéficier des programmes de santé. Il sera exclu de bien d'autres avantages encore.
Sachez également que les parents ont un délai maximum de 1 mois, c'est-à-dire 30 jours pour déclarer la naissance de leur enfant.
Passé ce délai, il faudra recourir à un jugement supplétif qui peut prendre plus de temps et d'argent.
Déclarer son enfant à la naissance, c'est lui donner un bon départ dans la vie.
Ceci est un message de la Direction nationale de l'État civil en partenariat avec l'UNICEF grâce au soutien financier de l'Agence italienne pour la coopération au développement.
Mag économie, la crise, une opportunité ou un risque pour l'investissement? On suit ensemble.
Pour la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, il faut plutôt s'interroger sur comment investir dans notre pays. Partant de là, il faut ensuite songer à asseoir des bases d'une économie nationale solide. Mahamadou Sanogo, secrétaire général de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali.
La Chambre de commerce est effectivement penchée sur la question, avec l'ensemble des composantes du secteur économique d'ailleurs. Après analyse et diagnostic de la situation, nous avons compris que nous devons nous fonder de nous-mêmes et sur nous-mêmes, et refonder notre économie sur des bases solides. En considération de nos avantages naturels, les filières porteuses et érigées d'un pôle de développement.
Des opérateurs économiques à Kaï, Sikasso et Mopti et aussi Bamako estiment que sans une stabilité sociale et sécuritaire, il est difficile qu'un investisseur prenne le risque de s'installer au Mali.
Il faudrait que l'État s'implique, il faudrait que les PME et les PMI s'impliquent aussi, mais il faudrait aussi que les conditions d'imposition soient beaucoup plus favorables pour les investisseurs afin que les impôts puissent donner plus de largesse à certaines entreprises de venir s'implanter.
Actuellement, pour que les investisseurs reviennent, il faut qu'il y ait la paix, il faut que le terrain soit assaini en matière de sécurité.
Bien vrai que les autorités de la transition ont fait des efforts, je crois qu'ils doivent encore s'investir pour rassurer des opérateurs économiques maliens et étrangers.
Des économistes aussi abondent dans le même sens. Abdul Karim Djamoutene affirme que les investisseurs tiennent compte surtout des commodités mises en place en la matière par les dirigeants.
Même lorsque les politiques sont mieux clarifiées, l'environnement immédiat sur le régional mondial est incertain, ce qui fait peser assez de risques déjà sur la prise de décision des entreprises. A fortiori, si nous sommes dans un contexte où on a du mal à lire les intentions des autorités politiques publiques. Donc du coup, là c'est un frein essentiel. Les entreprises souhaiteraient savoir dans 5 ans à moyen terme, quelles sont les orientations, n'est-ce pas, auxquelles s'adossent les différentes politiques des différents secteurs. La priorité accordée par les autorités, c'est sur la base de cela que les investisseurs, n'est-ce pas, se fondent pour prendre un certain nombre de décisions.
Malgré ces défis liés à l'investissement au Mali, certains entrepreneurs y viennent quand même. L'international malien Seydou Keita vient d'investir 14 milliards de francs CFA dans un complexe agroalimentaire dénommé SDA. Implantée à Sanakorba sur une superficie de 7 hectares, cette usine produit entre autres de l'huile, de l'aliment bétail et de l'aliment volaille. Elle offre 400 emplois directs et plus de 10 000 autres indirects.
Je suis surtout heureux de réaliser un tel projet ici au Mali. Parce que moi j'avais la possibilité de faire ça. Actuellement je vis à Dubaï, de faire ça à Dubaï. Mais pour moi le plus important vraiment, c'était de faire ça ici, chez moi, créer de l'emploi chez moi, pour participer aussi à la reconstruction de notre pays. C'est vraiment l'objectif.
Les responsables de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali assurent que les conditions pour que les investisseurs s'intéressent à la destination Mali sont déjà mises en place par l'État. Mahamadou Sanogo, secrétaire général de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali.
La disponibilité des opportunités d'investissement, les avantages accordés par notre code des investissements, la présence active de nous-mêmes, nos opérateurs locaux sur des produits, la disponibilité de l'État à accompagner les projets de développement font que les investisseurs, cette fois-ci étrangers, peuvent reconnaître notre pays comme une bonne destination.
Également à Gao, dans le nord du pays, des opérateurs économiques indiquent que, comme mesure incitative, l'État doit considérablement réduire la facture énergétique et numérique et aussi de prendre des mesures fiscales défiant toute concurrence.